Il y a vraiment des réacs, en fait, des conservateurs dans notre pays qui nous empêchent d'évoluer sur ces questions-là. Les sondages sur la GPA, ils tombent à 50%, c'est trois quarts des Français favorables, mais seulement la moitié favorable quand il s'agit des couples homosexuels. Ça montre bien qu'il y a une homophobie qui persiste, en fait, dans la société. Donc la GPA est associée, en fait, à la communauté LGBT, et donc du coup, il y a une résistance par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi une pression du patriarcat qui fait qu'une bonne femme ou une bonne mère, c'est une mère qui accouche et qui élève son enfant. Une mère qui accouche et qui renonce à élever son enfant, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise mère. Et je pense que c'est la pression du patriarcat qui fait qu'on n'avance pas sur cette question.
Bonjour à tous, je suis Juliette et vous écoutez le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Où est la maman? C'est ce qu'a tweeté Marion Maréchal le 23 avril dernier en réponse à une photo du créateur de mode Jacquemus sur laquelle figuraient son conjoint et leurs enfants. Un tweet parfaitement homophobe et une attaque de plus contre la gestation pour autrui, alors même qu'au Sénat, en mai dernier, le groupe LR a déposé une proposition de loi qui vise à lutter contre le recours à une mère porteuse. De son côté, le président Emmanuel Macron a affirmé cette année être défavorable à la gestation pour autrui, qu'il considère comme incompatible avec la dignité des femmes, mais insiste quand même sur l'importance de respecter et d'accompagner les enfants nés par GPA à l'étranger. Cette pratique a pourtant bien des partisans. La preuve, l'enquête de l'IFOP parue en 2024, en partenariat avec l'Association des familles homoparentales, sur la position de l'opinion publique sur la gestation pour autrui et les questions LGBT dans la campagne des élections européennes. D'après cette enquête, 71% des interrogés se prononçaient favorables à la légalisation de la GPA pour les couples hétérosexuels et 56% pour les couples homosexuels. Différentes personnalités de gauche se prononcent aujourd'hui en faveur de la GPA, comme Annie Ernaux qui a affirmé avoir changé d'avis par rapport à cette question dans les colonnes de Têtu en novembre dernier. Alors, où en est la France aujourd'hui? Combien de familles sont concernées? Comment peut-on réaliser une GPA? Peut-on espérer une législation en faveur de la GPA en France? Et selon quelles modalités? Pour répondre à ces questions, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Clélia Richard, avocate experte de la GPA, membre du conseil d'administration de l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens, et Michael Siegel, militant pour l'APGL et père d'une petite fille de 2 ans, née d'une GPA. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Tout d'abord, Clélia Richard, je vous propose que l'on revienne ensemble sur les différentes formes de procréation médicalement assistée et de leur autorisation ou de leur interdiction en France.
Alors, les différentes formes d'assistance médicale à la procréation en France se réduisent à ce qu'on appelle la PMA, donc la procréation médicalement assistée, qui est ouverte depuis peu à toutes les femmes. Elle était, depuis le 2 août 2021, donc ça va faire 2 ans, à toutes les femmes, et on pourrait dire presque toutes les femmes, puisque en fait les personnes trans, pour certaines d'entre elles, n'ont pas accès à cette PMA. Alors avant le 2 août 2021, seuls les couples hétérosexuels, mariés ou en concubinage ou partenaires de PACS, mais qui se heurte à un problème de fertilité médicalement constaté, pouvait avoir accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation, donc à la PMA, avec la possibilité de faire appel à un tiers donneur en ce qui concerne soit un don de sperme ou soit un don d'ovocytes. En ce qui concerne la gestation pour autrui, qui pourrait être une forme d'assistance médicale à la procréation, même si elle ne s'y réduit pas complètement, c'est très simple. En France, c'est prohibé totalement. À savoir que 3 délits sont en vigueur dans le code pénal, qui sont relatifs à la gestation pour autrui. Le délit d'entremise, le délit d'atteinte à la filiation et de provocation à l'abandon d'enfant. Donc ce sont 3 infractions différentes dans le code pénal et dans le code de la santé publique, donc qui ont attrait à cette gestation pour autrui. Et puis, il y a une interdiction dite civile, c'est-à-dire qu'en droit civil, lorsque vous contractez avec une femme qui va porter pour le compte des parents d'intention, vous rédigez un contrat, ce contrat est nul et d'une nullité absolue. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en prévaloir devant les tribunaux, on ne peut pas en demander l'exécution, et même, j'allais dire plus loin que ça, il n'existe pas. Il existe matériellement, mais il n'existe pas juridiquement. Voilà ce que je peux vous dire en synthèse.
Malgré cette interdiction, Clélia Richard, combien de personnes sont concernées par cette pratique ? Comment les personnes peuvent-elles y avoir accès ?
Alors, combien sont-ils ? C'est très difficile de répondre à votre question. En tous les cas, de suivre un petit peu ce mode d'entrée en parentalité et cette façon de faire famille au moyen donc, de la gestation pour autrui depuis à peu près une décade, je peux vous dire que tant les couples hétérosexuels que les couples d'hommes, donc les couples gays, ont recours d'année en année, un peu plus nombreux chaque année. Ça ne se fait pas en France, hein, comme je viens de l'indiquer. Donc ça se fait dans les pays étrangers où cette gestation pour autrui est légalisée et où l'accès aux étrangers et aux couples de même sexe y est tout à fait autorisé. Donc c'est très compliqué de vous répondre sur le plan quantitatif. Moi, je n'ai pas de statistiques en soi. Ce que je sais, c'est que de ma planète cabinet d'avocat et pour suivre ces familles-là, ça ne désemplit pas.
Michael Siegel, vous avez une fille de 2 ans, née d'une GPA. Pourquoi avoir opté pour une gestation pour autrui ?
Du coup, au début, on s'est posé plusieurs questions. Comment être papa ? Donc, c'est vrai que la question de l'adoption et de la coparentalité s'est posée pour nous. Très vite, on a compris que l'adoption, il y avait des délais d'attente qui étaient très longs. On nous parlait de 9 ans d'attente et sans garantie. Très peu de couples gays avaient adopté en France. Il y avait l'option de la coparentalité. Mais ce n'était pas un modèle qui nous convenait à nous parce que il y a des contraintes déjà en termes de voilà, il fallait qu'on se décide si on trouve une femme ou deux femmes qui voulaient faire un enfant avec nous et qui vivaient à Paris, ça voulait dire qu'ensuite on ne pouvait plus bouger de Paris concrètement. Ça veut dire que on voit l'enfant une semaine sur deux et moi j'avais envie de pouvoir être à temps plein avec mon enfant. Et aussi, il faut s'accorder sur les valeurs. Et déjà, à deux, ce n'est pas évident. Donc, à trois ou quatre, c'est encore moins évident. Et après, il y a l'aspect juridique. Hein. Aujourd'hui, en France, il n'y a que deux parents qui sont officiellement reconnus comme parents. Donc, le troisième parent ou le quatrième parent n'a pas n'est pas reconnu, en fait, légalement. Donc, on ne voulait pas se retrouver dans cette situation d'insécurité juridique. Donc, on s'est vite tourné vers la GPA, aussi parce que c'était un choix politique. Et je tiens à le dire parce que avec mon mari, on estime que c'est un acte féministe puisque la GPA devrait être un droit de santé sexuelle et reproductif puisque les femmes devraient avoir la libre disposition de leur corps et ne pas être essentialisées et réduites à un rôle de maternité. Et c'est un choix politique aussi parce que pour moi, comme Clélia l'a dit, la GPA, c'est une technique de PMA. Et ce qui a été assez flagrant dans la loi bioéthique, c'est qu'on a ouvert la PMA à toutes les femmes, ou presque toutes les femmes, mais les hommes, en fait, sont absents du premier article de cette loi, alors qu'on aurait pu légaliser cette technique de PMA pour permettre aussi aux hommes d'avoir accès à la PMA. Donc c'est aussi un enjeu d'égalité des droits.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez procédé ? Vers quel pays avez-vous choisi de vous tourner ?
Il y a plusieurs pays en fait, qui ont légalisé la GPA, comme le disait Clélia. Il y a l'Afrique du Sud, il y a la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces pays en fait, ont seulement légalisé la GPA pour les citoyens ou les résidents de ce pays. Donc c'est le cas aussi du Royaume-Uni. Moi, je suis franco-anglais, donc on a envisagé de le faire en Angleterre. Mon cousin qui habite là-bas a fait une GPA avec des amis. Mais le problème, c'est qu'il fallait vivre au Royaume-Uni pour le faire là-bas. Et ça impliquait de changer de boulot, déménager. C'était un énorme changement de vie. Donc on s'est tourné vers le Canada, qui est un pays où la GPA est autorisée pour les étrangers. Et pourquoi on a choisi le Canada ? Parce qu'on a un peu de notre famille qui habite là-bas aussi, donc il y avait un lien émotionnel. Et parce qu'à l'époque, ça nous semblait plus en accord avec nos valeurs, puisque au Canada, la GPA est, on va dire, bénévole. C'est-à-dire que les femmes porteuses ne sont pas rémunérées, donc elles sont seulement défrayées, on va dire, sur notes de frais, sur les dépenses liées à la grossesse. Donc à l'époque, ça nous semblait, on va dire, entre guillemets, plus éthique. Avec le recul, aujourd'hui, je me dis que c'est pas plus mal, en fait, que les femmes porteuses soient rémunérées ou aient le choix de l'être ou pas. Parce que notre femme porteuse, elle, n'aurait jamais voulu être rémunérée, elle nous l'a dit, pour elle, ça n'a pas de valeur marchande, mais il y a aussi des femmes qui estiment que, vu l'impact sur leur santé, sur leur carrière, voilà, c'est... Les féministes parlent de il faut de reconnaître le travail de soins non rémunéré, le reconnaître financièrement, donc j'estime que si une femme veut être payée pour porter un enfant, elle devrait pouvoir l'être. C'est mon évolution, en tout cas, sur le sujet.
Votre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
On vient d'entendre la voix d'Emmanuel Macron en janvier dernier. Selon vous, comment est-ce qu'on peut comprendre l'ensemble des controverses autour de la GPA en France ? Vous avez cité différents pays où la GPA est légale. Comment on peut comprendre que la France soit aussi frileuse ? Est-ce qu'il y a une spécificité française en la matière ? Michael Siegel d'abord.
Bah, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand on regarde les sondages, en réalité, l'opinion publique est en faveur de la GPA. Vous l'avez dit, 3/4 des Français sont en faveur de la GPA. Il y a 10 ans, ils étaient 2/3. Donc, il y a clairement une évolution positive. On sait que 80% des jeunes sont favorables de la GPA. Donc, c'est le sens de l'histoire. On sait aussi que c'est un sujet que les militants, par exemple, de gauche, sont davantage en faveur de la GPA d'après les derniers sondages. Donc, c'est pas un sujet qui est porté par les partis politiques, mais chez les citoyens, en fait, ils sont plutôt en faveur. Donc c'est un débat, je pense, qui est clivant ou qui permet d'animer les plateaux télé, mais en fait, dans la vie quotidienne, les gens sont plutôt soutenants.
Et vous, Clélia Richard, vous partagez ce constat ?
Oui, alors moi, j'ai pas du tout l'explication, mais... Si on remonte un petit peu dans le temps, avant les premières lois de bioéthique, la GPA était autorisée en France. Enfin, en tous les cas, elle n'était pas interdite. Et ça ne remonte pas à si loin que ça. En fait, c'était le principe de la liberté, un peu comme en Belgique aujourd'hui, avec la possibilité pour la mère d'intention, in fine, de figurer sur l'acte de naissance de l'enfant. D'où ce que j'ai rappelé tout à l'heure en début de podcast, ce délit qui a été créé de l'atteinte à la filiation. C'est-à-dire qu'en même temps que les premières lois de bioéthique ont inséré dans le Code civil le principe de l'indisponibilité du corps humain, à savoir que le corps de nous, citoyens français en tous les cas, nous avons un corps qui est indisponible, ça veut dire que je n'en dispose pas par principe. Et si toutefois j'en fais profiter autrui, ce doit être selon un mode de gratuité et de désintéressement. C'est ça le principe de l'indisponibilité du corps. Et en fait, ça date de 1994. Donc une fois que c'est arrivé dans le Code civil, et on peut s'interroger les raisons pour lesquelles c'est arrivé à ce moment-là dans le Code civil, et c'est là où je voulais en venir, c'est que ça n'est pas sur une volonté générale recueillie à la base de conventions citoyennes qui auraient travaillé sur la question. Ce sont des médecins qui ont, pour la plupart, une pensée et une pensée relativement au corps et aux principes de vie qui se rapprochent, qui sont très proches en fait du catholicisme, qui sont en lien très fort en fait avec les valeurs véhiculées par le Vatican. Donc ces personnes-là, avec une forte représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat, ont permis l'élaboration de ce principe de l'indisponibilité du corps et de tout l'arsenal qui va avec la prohibition donc absolue de la GPA. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je pense que du coup, quelque chose de moins lisible comme ça politiquement, qui tient, je pense, à une spécificité française de la place de l'accouchement dans la filiation maternelle. On a quelque chose aussi de très spécifiquement français dans notre arsenal juridique qui s'appelle l'accouchement sous X ou l'accouchement dans le secret. C'est unique au monde. En fait, on a une position française spécifique par rapport à ce fait physiologique d'accoucher d'un enfant. Et soit on en est la mère, ou alors on accouche dans le secret. Bien sûr, on peut être une mère adoptive, mais c'est pas pareil. On pourrait être une mère sociale dans les couples lesbiens. On les appelle les mères sociales, en fait, par opposition à celles qui accouchent. Aujourd'hui, depuis la loi du 2 août 2021, on a un mécanisme d'établissement de la filiation ab initio pour la mère qui n'a pas accouché, moyennant reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. C'est complètement nouveau. Et là, encore une fois, c'était 2021. Donc, ça veut dire qu'on a aussi ce poids, cette tradition, en fait, hein, juridique autour de l'accouchement, qui, encore une fois, là aussi, est tenue par les élites, hein, parce que tout ça, c'est de la théorie, c'est l'histoire du droit, c'est l'accouchement fait la mère, alors que aussi, dans l'histoire du droit, les mères ont été tenues de reconnaître leur enfant, c'est-à-dire que ce n'était pas l'accouchement qui les faisait mère, mais aujourd'hui, c'est l'accouchement qui les fait mère. Et je pense qu'on a... Tous ces facteurs réunis font qu'avec la GPA aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué.
Je pense qu'il y a aussi deux autres aspects. Je pense qu'on l'a dit, l'opinion publique est favorable, mais comme le disait Clélia, il y a vraiment des réacs, en fait, des conservateurs dans notre pays qui nous empêchent d'évoluer sur ces questions-là. Les sondages sur la GPA, ils tombent à 50%, c'est trois quarts des Français favorables, mais seulement la moitié favorable quand il s'agit des couples homosexuels. Ça montre bien qu'il y a une homophobie qui persiste, en fait, dans la société. Donc la GPA est associée, en fait, à la communauté LGBT. Et donc, du coup, il y a une résistance par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi une pression du patriarcat, comme le disait Cléa, qui fait que une bonne femme ou une bonne mère, c'est une mère qui accouche et qui élève son enfant. Une mère qui accouche et qui renonce à élever son enfant, c'est une mauvaise femme, c'est une mauvaise mère. Et je pense que c'est la pression du patriarcat qui fait qu'on n'avance pas sur cette question.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Au début, je n'avais pas mesuré, c'est pas du tout pareil de porter son enfant pour autrui ou de porter l'enfant biologique des autres. Dans un cas, c'est ton embryon, tu le portes et à la fin, tu le donnes au couple. Et dans l'autre cas, on t'implante leur embryon, qui a été fait par une fécondation in vitro. Et cette différence, elle est tellement énorme que toutes les femmes la comprennent. J'ai rencontré des gestatrices, je n'oublierai jamais ça. À Paris, j'ai rencontré une Américaine qui était venue témoigner de son expérience. Et j'ai été amenée à l'interroger, à lui dire, mais vous savez, en France, on considère que des personnes comme vous se sont traitées comme les esclaves des temps modernes. Elle dit, mais ce que je leur répondrai, c'est qu'à part ma propre famille, rien ne m'a autant valorisée dans ma vie. Cette phrase, elle est inoubliable pour moi.
On vient d'entendre un extrait du film La sociologue et l'ourson de Mathias Théry et Étienne Chailloux. On a entendu la voix de la sociologue Irène Théry. Michael Siegel, quelle expérience est-ce que vous avez eue avec la femme qui a porté votre fille ?
Vous savez, en France, les gens, quand ils veulent s'investir dans une association, ils peuvent choisir de le faire bénévolement ou de manière salariée. Moi, je fais les deux, d'ailleurs, dans ma vie. Et je pense que les femmes porteuses devraient avoir le choix. Si elles veulent être payées, elles devraient pouvoir être payées. Si elles ne veulent pas être payées, comme c'est le cas de notre femme porteuse, voilà, parce que pour elles, c'est inconcevable. Elles ne voudraient pas être payées et elles faisaient tout. Durant toute notre aventure pour dépenser le moins possible pour pas que ça nous coûte cher. Donc voilà, je pense que c'est la sensibilité de chacune. Mais pour revenir sur le lien avec la femme porteuse, ma fille a eu 2 ans il y a 2 jours. Et notre femme porteuse nous a demandé si elle pouvait poster des photos de notre fille sur les réseaux sociaux. Et du coup, tout le monde a commencé à commenter. Et moi, je l'ai remercié en disant merci d'être une superwoman, de nous avoir permis d'avoir un enfant. Et elle nous a dit merci de m'avoir autorisé à vous aider à faire cet enfant. Parce que c'est elle qui nous a choisi, en fait. Mais c'est marrant comment à chaque fois, je me suis dit, waouh, encore deux ans après, on est chacun à se remercier l'un l'autre, en fait. Ça m'a ému, en fait, de me dire, je suis tellement redevable envers elle, et en fait, elle est redevable envers nous de l'avoir choisie. C'est beau, en fait.
Et par rapport à la perception autour de vous, du fait d'avoir eu recours à la GPA, est-ce qu'il y a des gens qui autour de vous étaient réticents face à cette pratique ? Et en fait, quand on est face à une famille aimante et à une mère porteuse ravie d'avoir fait ça, peut-être qu'on change d'avis. Quel regard est-ce que vous avez observé autour de vous par rapport à ça ?
Oui, bah alors déjà, la première personne qu'il fallait convaincre, c'était moi-même. Donc j'ai dû me renseigner vraiment sur la GPA, surtout que c'était à une époque où je m'intéressais de plus en plus au féminisme, puisque moi je suis une personne queer, je me considère comme une femme manquée. Donc il fallait que ça soit en accord avec mes valeurs, avec les livres que je lisais, Virginie Despentes, etc. Et ensuite, j'ai commencé à converser avec mes amis parce que j'avais un peu la même peur que dans mon coming out, de me dire, si je me jette dans une GPA, en fait, je vais perdre l'amour de mes proches, ceux qui sont contre la GPA. Donc j'ai encore eu le même sentiment de peur qui m'a envahi. Et bien évidemment, quand je parlais avec eux, je ne leur disais pas que j'avais envie de faire une GPA, je sentais la réticence de leur côté, donc je suis entré dans les débats d'idées, etc. Mais à partir du moment où, en fait, on a annoncé qu'on allait faire une GPA, leur regard a changé, en fait. Leur regard a changé, ils ont compris qu'on n'avait pas le choix, que l'adoption n'était pas une option. Et surtout, they did the work. Ils se sont éduqués. Ils ont commencé à se renseigner, ils ont commencé et pas juste partir de leurs préjugés. Et ils ont changé. Donc ça, c'est mes amis, c'est même des gens au sein de ma propre famille qui étaient réticents. Et maintenant, c'est les fervents défenseurs de la GPA. Donc après, on avait aussi des soutiens dès le départ. Moi, ma mère, elle me disait « j'aurais adoré être femme porteuse ». Voilà, il y a des femmes qui aiment être enceintes, il y a des femmes qui n'aiment pas ça, mais il y a aussi des femmes qui aiment ça. Donc, il y a une variété de personnes dans la vie, quoi.
On va aborder l'aspect juridique maintenant de la GPA. Votre fille, Michael Siegel, est née au Canada. Il a fallu ensuite transcrire son état civil en droit français. Comment ça se passe ?
En gros, dès le premier souffle de ma fille, elle avait deux papas. Et on n'avait même pas besoin de passer devant un juge au Canada. On va en mairie et en fait, c'est comme en France, hop, on a l'acte de naissance. Nous, on est passé devant un juge au Canada quand même parce qu'on en avait besoin pour la partie française. Parce que même si la loi bioéthique dont on a parlé tout à l'heure a été une avancée pour les lesbiennes, en fait, ça a été un recul pour les gays. Donc, notre gouvernement aime bien nous diviser au sein de la communauté LGBT. Et donc, pour donner un peu un gage à la manif pour tous, en fait, il a introduit dans la loi bioéthique un article qui revenait sur la transcription automatique des actes de naissance. Et donc, du coup, avant, les actes de naissance étrangers étaient transcrits en 3 semaines. Et ensuite, le gouvernement a voulu nous forcer à adopter nos propres enfants, ce qui est assez dingue. Mais beaucoup de papas refusent de rentrer dans ce petit jeu-là. Et grâce à l'aide d'avocats alliés comme Clélia, on va devant les tribunaux en fait, pour faire reconnaître par des juges français les jugements étrangers pour faire en sorte que les deux papas soient sur l'acte de naissance. C'est ce qu'on a fait, ça nous a pris un an. C'est une procédure qui est longue quand même, puisque vous savez que la première année quand on a un enfant, c'est pas évident, on s'engueule beaucoup dans un couple, c'est là où il y a le plus de séparation, donc c'est quand même risqué. C'est une procédure qui est quand même coûteuse, il faut payer les frais d'avocat, d'huissier, etc. Et c'est incertain, ça, c'est vraiment à la carte, c'est en fonction de où vous habitez. Est-ce que le juge est favorable à cette exéquature, ça s'appelle, ou est-ce qu'il ne l'est pas ? Et donc, c'est assez injuste en fonction de... C'est la loterie.
Clélia Richard, en tant qu'avocate alliée, comme le disait Michael Siegel, comment ça se passe, ces procédures ?
Ce qu'il faut comprendre pour les parents qui s'engagent dans un tel parcours et qui font famille, c'est qu'il est hors de question que leurs enfants ne soient pas sécurisés comme les autres. Les familles doivent être, sur un même pied d'égalité. Donc ce que j'appelle les nouvelles familles, c'est-à-dire les familles qui ne sont pas reconnues ab initio, qui ne peuvent pas chausser tout de suite les chaussures offertes par le Code civil ou la société, dans son acception générale. Effectivement, les couples de papas en font partie. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Enfin, il faut faire cette procédure judiciaire en France pour sécuriser l'enfant dans sa double filiation. Parce que ça veut dire l'autorité parentale garantie pour les deux papas en cas d'accident de la vie, de séparation, de choses désagréables, d'indisponibilité de l'un des deux, d'un coma, d'une maladie grave, etc. Parce qu'il faut la dévolution successorale. Si l'un des deux parents décède, il faut qu'il puisse transmettre ses biens. Et puis, il faut aussi, accessoirement, un nom à transmettre. Voilà, il faut s'inscrire, en fait, dans une filiation. Donc, moi, dans ma pratique, si vous voulez, déjà, d'un point de vue pragmatique, je dis aux parents, il ne faut pas tergiverser. Ça devrait être reconnu automatiquement, mais ça ne l'est pas. Mais on a les moyens, en justice, de faire la sécurisation maximale de ses enfants. Donc, il ne faut pas réfléchir, il faut la faire. C'est le devoir de tout parent, en fait, de le faire. Alors, on va essayer d'avoir, avec mes confrères et mes consoeurs de la commission juridique de la PGL, donc de l'Association des parents gays et lesbiens, se réunit, on travaille dur pour essayer d'avoir les arguments juridiques pour soulever, et soulever utilement, j'ai envie de dire, ces discriminations au moyen de questions prioritaires de constitutionnalité, au moyen d'invoquer, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit toute discrimination à raison des personnes, à raison du sexe, sur leurs droits subjectifs en tous les cas, du sexe ou de leur orientation sexuelle. Mais en fait, c'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'article 1er de la Constitution de 58 qui fait appel à la Constitution de la 4e République en 1946. Ce sont ces droits humains fondamentaux qui nous le disent. Donc, bah, nous, on est toujours, si vous voulez, avec nos bâtons de finalement, alors j'aime pas cette image de pèlerin, mais en fait, nos bâtons de marcheurs. Ah non, pas non plus les marcheurs. En fait, voilà, on est en tous les cas en quête de faire évoluer le droit pour que chacun des parents, bah oui, pardon, sans orientation de sexe ni d'orientation sexuelle, et puis avec un droit aussi à l'autodétermination, parce que on a les parents trans dans l'équation aujourd'hui qui arrivent et qui ont le droit aussi d'être genrés correctement sur l'acte de naissance de leurs enfants. Enfin, ça me paraît juste évident, quoi. Bon, bah écoutez, ça ne l'est pas. Donc c'est un gigantesque champ de bataille sur lequel nous avançons. On avance pour faire progresser ces droits-là.
Et c'est particulièrement important d'en parler maintenant parce que nous sommes dans un contexte politique très tendu et j'imagine que ça vous préoccupe beaucoup. Quels sont les risques par rapport à tous ces sujets des droits reproductifs? Si jamais l'extrême droite est amenée à gouverner le pays, comment les choses pourraient évoluer selon vous, Michael Siegel?
Pour rien vous cacher, moi j'ai une vraie facho-anxiété là, qui a commencé il y a depuis 2 semaines. C'est vrai que ça fait peur. Quand on voit déjà le programme du Rassemblement national en 2022, donc de Marine Le Pen en 2022, il y a seulement 2 ans, elle disait qu'elle n'allait pas reconnaître la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. Et elle considère la GPA comme un contournement de la loi. Et c'est la même logique en fait que Giorgia Meloni en Italie, qui a fait de la GPA un crime universel. Et du coup, elle cherche, via un projet de loi, à criminaliser les papas qui ont fait une GPA à l'étranger et les envoyer 2 ans en prison et 1 million d'euros d'amende. Donc, clairement, nous, on est en train de se demander, là, est-ce qu'on quitte la France? En fait, à quel moment on quitte la France? Quand est-ce que notre famille est en danger? On le voit aussi en Hongrie, hein, où il y avait une loi qui permet aux citoyens de signaler la présence de familles LGBT au commissariat le plus proche. Je veux dire, c'est flippant. On sait très bien qu'avec les personnes trans, les familles LGBT, on sera les premiers ciblés en fait, de la communauté LGBT. Et quand le Rassemblement national n'arrivera pas à mettre en œuvre son programme, ils seront obligés de faire de la com et donc se lâcher sur les minorités. Et ça, c'est nous. Donc voilà, on espère aussi que les autres partis vont se bouger, parce que c'est vrai qu'ils ne se bougent pas assez pour nous défendre. Alors pour la première fois, on a parlé de la GPA durant la campagne pour les élections européennes, à cause, ou je ne sais pas si c'est grâce à Marion Maréchal Le Pen, en tout cas, sa sortie homophobe a permis d'en débattre, d'avoir des soutiens inattendus, tant mieux. Après, il faut pas trop. Moi, ce que j'attends pas des partis républicains ou de gauche de s'engager pour un débat sur la GPA. En fait, on a besoin d'aller au-delà de ça, puisqu'on l'a vu lors des débats sur le mariage pour tous. Le soutien pour le mariage pour tous a reculé durant les débats. En fait, moi, je veux que les partis s'engagent pour légaliser la GPA, pour permettre à toutes les personnes LGBT qui le souhaitent de faire famille. Et je pense qu'on peut trouver un modèle à la française. Il y a le modèle nord-américain qui est plutôt une GPA commerciale ou privatisée. C'est des agences privées qui mettent en contact les parents d'intention avec les femmes porteuses et les donneuses d'ovocytes. Vous avez le modèle, on va dire, du Royaume-Uni, où c'est une GPA associative ou non lucrative, où ce sont des assos en fait, qui mettent en lien les parents d'intention et les femmes porteuses. Mais on pourrait aussi avoir un modèle à la française. La France est très attachée à son service public. On a une agence publique de l'adoption. Pourquoi pas une agence publique de la GPA, comme pour la PMA, en fait, qui mettrait en relation les parents d'intention avec les personnes qui souhaitent les aider. Nous, on avait une solution en France. En fait, ma cousine, elle nous a proposé de porter notre enfant. Donc, on avait une solution super simple. Et en fait, parce que c'est illégal, on a été obligé de s'exiler, de monter des groupes WhatsApp avec d'autres parents en mode comme des clandestins pour se donner des conseils. Ça me fait penser aux femmes qui s'exilaient pour faire un IVG en fait. On a été obligé de se ruiner aussi financièrement. On n'en parle pas assez, mais dépenser. Nous, on a dépensé 76 000 euros. Du coup, pour avoir notre enfant au Canada. Aux États-Unis, c'est plus, c'est autour de 150 000 au moins. Ça, c'est tout accumulé. Donc, c'est les frais d'avocat, les frais de clinique, les frais d'agence, les frais liés à la grossesse, les frais d'avion, j'ai tout mis, Airbnb, etc. Mais je pense que peu de gens dépensent autant d'argent dans un projet. Il y a énormément de papas qui s'endettent, qui prennent des prêts à la consommation, qui vendent leur appartement, qui vendent leur voiture, qui demandent de l'argent, qui montent des cagnottes litchi. C'est réservé à des privilégiés. Il y a des moins privilégiés qui s'endettent encore plus, mais c'est injuste en fait que ça soit réservé à une certaine classe sociale. Et du coup, ceux qui ont moins les moyens, bah, du coup, ils se tournent vers des pays où il y a moins de garanties sur la GPA. Et donc, du coup, on peut avoir plus de dérives. Donc, en fait, il faut encadrer cette pratique justement pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Parce que là, on est dans du classisme, en fait. Donc voilà, il faut un service public de la GPA.
Merci beaucoup Michael Siegel et Clélia Richard d'être venus parler avec nous de la GPA. Vous pourrez retrouver toutes les références que nous avons évoquées sur le site de Radio Campus Paris à la page du Lobby. On se retrouve tout l'été, chaque mardi de 19h à 20h pour le Lobby d'été et quand vous voulez sur les applications de podcast. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.